Gérard Le Gall, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Donc, Gérald, tu es probablement la meilleure personne pour te présenter. Je te laisserai dire qui t'es, quelle est ton entreprise, tes activités.
OK. Écoute, c'est une entreprise qui fait évidemment la cueillette, la transformation, la vente des produits sauvages, comme la plupart de mes collègues. Je vais donner peut-être un peu d'informations sur la genèse de tout ça, les origines de tout ça. Parce que j'ai grandi, moi, au Manitoba, sur une ferme. Donc, on était dehors, les foins, les animaux, les grands jardins et tout ça. Alors, un intérêt très précoce pour ce qui m'entourait. Alors, au-delà de la ferme, je remarquais le retour des oiseaux au printemps. On faisait des petites chasses, tu sais, des collets aux lièvres et tout ça. Alors, tout ce qui est le milieu naturel m'a toujours intéressé. Maintenant, quand j'ai poursuivi mes études, je suis allé à l'université et tout ça, je suis pas tellement sûr pourquoi je suis pas allé dans quelque chose qui aurait ressemblé à la biologie ou la botanique ou plutôt, je suis allé en géographie et puis je suis devenu enseignant. Par contre, cet attrait pour les milieux naturels était tellement fort que très, très tôt, j'ai commencé à développer un programme pour avoir des classes à l'extérieur des classes. L'extérieur m'attirait. Évidemment, les élèves adoraient. C'est sûr que assis sur un banc d'école pendant 6 heures, 7 heures, ça plaît à pas grand monde. Alors, j'ai développé un programme et puis finalement, je suis resté en enseignement pendant 6 ans. Mais tout ce temps-là, ça ticotait dans ma tête. Qu'est-ce que c'est que je pourrais faire qui m'amènerait à l'extérieur, qui me donnerait un défi physique, mais aussi intellectuel? Et puis, ça m'a mené finalement à devenir un genre d'agent de développement économique auprès des peuples autochtones. Le premier groupe avec lequel j'ai travaillé, c'était les Inuits. On s'est concentré sur la chasse et puis aussi sur la pêche. L'extérieur, ce n'est pas vraiment les plantes pour moi, c'est tout ce que ça comprend. C'est très, très large. Alors, je m'intéresse à tout ce qui touche à la nature. Maintenant, l'entreprise que j'ai créée en 93, ça fait au-dessus de 27 ans, 28e année maintenant, touche sur les plantes comestibles parce qu'il fallait que je fasse un choix quelque part. Alors, je me suis dirigé vers ça, mais mon intérêt très, très large pour tout ce qui touche à la nature, que ce soit les oiseaux, le poisson. Aussi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est à travers de mes voyages, c'est la relation qui existe entre les hommes, les femmes, bien sûr, et leur milieu naturel, qui varie beaucoup, hein, d'une part, on pourrait en parler plus longuement, mais notre rapport à nous, et puis celui, par exemple, des Autochtones. Et puis, là, j'ai eu l'occasion dans ma vie de comparer à plusieurs reprises notre vision de notre monde et puis la vision des Autochtones de ce monde-là.
Puis dans ton histoire, c'est quand que tu passes du Manitoba au Québec?
Très rapidement, mes études finies, je travaille en Ontario, en contact tout de suite avec le peuple Ojibwé. De là, je pars vers le Grand Nord, donc les Inuits. Par la suite, je reviens vers la Nouvelle-Écosse et puis finalement vers le Québec, la pêche commerciale au Québec, sur la côte nord. Alors, les Inuits. De là, je fais quelques années dans le Pacifique Sud, où ça a été vraiment très instructif au niveau des plantes et puis tout ce qui touche au milieu naturel. Alors, tu vois, le parcours en est un de voyage finalement. J'ai jamais cessé de voyager jusqu'à ce que je crée en 93 Gourmet Sauvage. Puis là, je me suis pas mal installé au Québec depuis ce temps-là.
Puis tu dis que ton intérêt il était vaste sur les milieux naturels, puis le naturalisme en général, la faune, la flore. Puis tu dis que les comestibles sauvages sont venus un peu parce qu'il fallait faire un choix. Mais c'est quoi qui a été l'étincelle? Est-ce que c'est ta relation avec les peuples autochtones, les autres cultures qui t'ont amené à considérer plus l'aspect, cette interaction plus utilitaire? Avec l'écologie, c'est quoi vraiment qui a été l'étincelle où tu as dit les comestibles sauvages, c'est ce dans quoi je veux m'engager?
J'aurais deux anecdotes à conter par rapport à ça. D'une part, on faisait la cueillette à la maison avec ma mère, entre autres, mais c'était surtout des petits fruits. Et puis, le contact avec les peuples autochtones m'a vraiment ouvert les yeux à tout le reste, là, les plantes médicinales, les légumes qui existent. Alors, je me suis intéressé, puis j'ai développé ça comme passe-temps, si vous voulez. Avec le temps, c'est les gens qui m'entouraient beaucoup qui disaient mais c'est bon, comme si ça ne devait pas être bon. Et puis, le commentaire suivant, c'est Gérald, il faut que tu fasses quelque chose avec ça, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment extraordinaire. Ils voyaient comme du merveilleux là-dedans que moi, je prenais un peu pour acquis. Et puis, alors, les gens m'ont beaucoup encouragé dans cette direction-là, donc les plantes comestibles. L'autre anecdote, c'est que j'étais dans un gros travail et puis je voulais vraiment consacrer ma vie à temps plein à quelque chose qui ressemblait dans ce monde-là, quoi. Et puis j'ai un ami qui a passé 2 semaines avec nous lors des vacances de Noël. Et puis, ce qu'il m'a fait faire, lui, c'est qu'il dit, écoute, chaque soir, on va passer un bout de temps à parler de ce que tu as fait dans ta vie puis les choses qui t'intéressaient. Moi, je vais prendre des notes. Et puis, quand je vais partir, je vais te laisser mes notes. Okay? Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est que durant cette période-là, il a accumulé 16 activités potentielles qui étaient toutes en relation avec les milieux naturels. Ça pouvait être un centre de repos, un centre de méditation en pleine forêt, des traîneaux à chiens, parce que j'avais eu un traîneau à chiens, les plantes comestibles, etc., etc. Alors, il m'a donné cette liste-là de 16 choses, et puis moi, j'ai pensé à tout ça pendant un bon bout de temps, accumulé aux commentaires que mes amis faisaient, « Gérald, ça n'a pas de bon sens, c'est vraiment merveilleux, fais quelque chose avec ça. » Alors, c'est ce qui m'a décidé. J'ai quitté mon emploi, puis je suis allé vers les plantes, les champignons comestibles. Parce que, bon, nourrir, hein, il faut toujours le faire à l'année. Et puis, je voyais comme un bon potentiel là-dedans, étant donné aussi les connaissances que j'avais, les compétences que j'avais, et puis le capital que j'avais pour développer une entreprise de ce genre-là. Mm-hmm. Alors, c'est à peu près ça.
En 93, là, quand tu as commencé, ça ressemblait à quoi le marché, puis la connaissance des gens par rapport à ces produits-là?
Ah, mon Dieu! Le grand désert. Je me suis buté, je m'y attendais. Je me suis buté à un mur de briques. Là. Je ne pensais pas qu'il serait si dur, si haut, si épais. Ça a mis beaucoup de temps. Alors, je donnais des échantillons, par exemple, au chef. Et puis, là, il me demandait « qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que tu es certain que ça se mange? Est-ce que tu vas m'intoxiquer avec ça? » Alors, les questions très, 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 très nombreuses. Et puis, la méfiance quand même assez… Là où j'ai reçu le plus d'ouverture puis d'appui, je crois, ce sont des chefs européens, belges, français. Et puis, eux avaient une certaine ouverture parce que je pense qu'il y a une tradition qui est plus forte en Europe, en France en tout cas, qu'elle l'était ici. Ici, pourtant, elle était forte, mais on l'a perdue au cours des années 50-60 avec les supermarchés. On a cessé de faire ce travail-là. Puis en une génération, deux générations, on a tout oublié, ce magnifique héritage qu'on avait eu de nos Amérindiens, de nos collègues Amérindiens. Ça a été une longue et difficile expérience de faire connaître ces produits-là. Ça s'est fait beaucoup par le biais des chefs, justement, parce qu'ils ont appris à préparer certains produits, présenter ça dans les restaurants, puis les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est? C'est donc bien bon, est-ce qu'on peut en avoir d'autres? Et ça a amené éventuellement vers le détail.
Mm-hmm. Donc, tu as commencé avec toi-même qui faisais de la cueillette puis qui allait dans les cuisines des chefs pour proposer tes produits. Puis ensuite, tu as commencé à développer des recettes et à faire des produits transformés. C'est quoi, toi, ton rapport à la cuisine, à la découverte de nouvelles recettes? Comment t'es passé de la vente de produits bruts au détail de produits transformés?
Oui, écoute, je me considère comme, je ne suis pas un chef, mais je me considère comme un cuisinier quand même assez compétent. Et puis, si j'ai quelqu'un à blâmer, ça serait bien des plantes comestibles parce qu'il n'y en avait pas de recette. Alors, mon défi, moi, c'était de prendre ces produits-là qui étaient traditionnels chez plusieurs peuples, mais de les mettre au goût du jour. Parce que la transformation que les Amérindiens faisaient, c'était, il y avait peut-être un peu de séchage, de fumage, mais certainement pas de petits pots. Alors, ça a été l'expérimentation à tous les points de vue. Des fois, je me calquais un peu sur quelque chose qui existait. Je vais donner un exemple. Les cœurs de quenouille, ben, je connaissais les cœurs de palmier. Alors, j'ai vraiment acheté des boîtes de conserve de cœurs de palmier. J'ai regardé les ingrédients. J'ai commencé à expérimenter. Et puis, c'est devenu une espèce de produit bannière pour Gourmet Sauvage. C'est le premier que j'ai produit, qui est encore un produit vedette. Il se vend très, très bien parce que c'est tellement raffiné, c'est tellement unique. Alors, ça a été ça. Ça a été beaucoup l'expérimentation. Je ne peux pas compter le nombre de recettes que j'ai faites au fil des ans. Et puis, sans vouloir faire de jeu de mots, je me suis planté souvent. Des recettes qui n'avaient aucun sens. Mais on peaufine nos méthodes et puis on apprend aussi à deviner un peu l'essence de la plante. Et puis, avec le temps, on fait beaucoup moins d'erreurs. On se dit, oh, ça pourrait aller bien dans de telle façon. Quoiqu'aujourd'hui, une grosse partie de notre clientèle, ce sont des plantes, des fruits non transformés ou pratiquement pas transformés. Les chefs ont cette habitude-là maintenant qu'ils veulent faire à leur façon. Mais le défi reste, on continue de développer des nouvelles recettes chaque année pour se renouveler, pour rester aussi pertinent dans le marché, parce qu'on a des collègues, on est content qu'ils sont là, mais en même temps, il y en a certains qui apporte une compétition. Alors, encore là, un exemple, quand j'ai fait les câbles de boutons de marguerite, c'était unique, on en vendait des milliers de pots. Maintenant, il y a plusieurs entreprises qui en font. Et puis, à ce niveau-là, ben, nous, nos ventes ont baissé quelque peu, tu sais. Mais écoutez, c'est ça. On se renouvelle. Le plaisir qu'on a aussi, c'est à développer des nouveaux produits. Parce qu'après que tu as fait ton 10 000e pot, là, celui qui suit, bon, à un moment donné, on a fait le tour de la question, quoi. On maîtrise la chose.
Puis j'imagine quand tu as commencé à apprendre de l'expansion, tu pouvais plus à la fois être le seul cueilleur, faire toute la transformation. Fait que j'imagine que tu es allé chercher d'autres personnes pour t'aider dans la cueillette. Comment ça se fait ça? Est-ce que c'est en marchant dans la forêt, tu tombes sur un cueilleur, tu dis, hey, toi, ça te tente-tu de travailler avec moi? Comment ça se fait la recherche de cueilleurs, puis la formation aussi, parce que j'imagine que tu veux donner ton approche à ces gens-là pour t'assurer de la qualité, de l'innocuité, aussi de l'éthique avec laquelle ils font la cueillette. Comment on trouve des nouveaux cueilleurs et on leur enseigne un peu notre manière de faire?
Oui, mais d'abord, une petite mise en contexte. Moi, je voulais avoir un niveau d'indépendance quand même assez élevé. Donc, je cherchais à ne pas avoir trop d'employés en cuisine ou presque pas d'employés en cuisine. Puis, il est clair que les cueilleurs que j'allais recruter allaient être indépendants de moi. On s'entend sur un prix, sur un volume, sur une façon de faire la cueillette puis de la transporter, mais autrement, ils sont complètement autonomes, ils ne sont pas attachés à moi directement. Ce ne sont pas mes cueilleurs. Ils peuvent vendre à d'autres entreprises. Comment on s'y prend? C'est du bouche à oreille. Au fur et à mesure que tu travailles, au début, tu fais tout. À un moment donné, tu constates que, y a des capacités. Il n'y a pas plus de 24 heures dans une journée, en d'autres mots. Alors, tu cherches des renforts. Et puis, ils se présentent. Maintenant, pour ce qui est de la méthode de travail, mais là, dès le début, on voit que j'ai constaté qu'il fallait faire de la formation. Alors, au niveau de la salubrité, d'une chose, il m'est arrivé une petite anecdote à un moment donné. Écoute, c'est vraiment arrivé comme ça, là. C'est un gars qui est arrivé avec des chanterelles dans une boîte en carton. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu dedans avant, mais elle n'était pas tellement propre. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il connaissait un petit peu les champignons, puis il était allé faire du bois de chauffage. Alors, il a coupé son bois, il avait sa scie mécanique, son essence, bien sûr, son huile. Il coupait son bois, tombé sur une table de chanterelles, trouvé une boîte dans son camion quelque part, rempli la boîte, le mis en arrière, et puis avec son chien, un gros bernois. Alors là, tu vois l'huile, tu vois le chien qui bave un peu, la poussière du chemin de terre. Là, j'ai dit au gars, je ne peux pas acheter tes champignons. Comment ça? Pourquoi pas? Et puis, alors là, c'est vraiment venu s'asseoir clairement chez moi qu'il fallait faire la formation. Ce n'était pas mal intentionné. C'est qu'on oubliait qu'on n'était pas parti chercher des bleuets pour faire une tarte à la maison, qu'on commençait à faire du volume puis qu'on nourrissait un grand nombre de personnes. Alors, j'ai commencé à penser à ça. Puis, les thèmes qui me venaient en tête, c'était bien sûr l'identification. Il fallait penser aussi à la salubrité des aliments, la salubrité de la personne, du camion, du véhicule. L'éthique, respecter aussi les terres autochtones, les terres privées, les parcs, etc. Alors, il a commencé à y avoir une espèce de série de thèmes dont je voulais parler aux gens. On passait une journée, deux journées ensemble, à leur endroit de cueillette. Et puis là, les commentaires sortaient. Alors, éventuellement, on a créé une formation à travers l'association, mais bien avant, dès le départ, j'ai commencé à avoir des cueilleurs. Il y avait une formation peut-être plus informelle, mais quand même très, très importante par rapport à la cueillette, la manutention, l'expédition des produits.
Mm-hmm. Puis, Gourmet Sauvage donne de la formation grand public aussi. Ça, c'est arrivé quand dans ton histoire? Ben, tu nous l'as déjà dit, ça a commencé dès le début comme professeur de géographie. Mais avec Gourmet Sauvage, c'est quand que vous avez commencé à faire des formations grand public?
J'ai jamais, dès le départ, hein, j'ai jamais eu de temps où je ne donnais pas de formation grand public. La chose, c'est que je n'avais pas de site bien organisé. Donc, c'était pas mal informel. Je faisais aussi beaucoup d'expérimentation. Mon petit réchaud sur le dos, dans le bois. Là, il se mettait à pleuvoir, les problèmes, tout ça. Je faisais des évaluations. C'est quand je suis arrivé là où on est présentement, à Saint-Faustin, près de Mont-Tremblant. Là, j'avais accès à 200 heures que je pouvais développer pleinement. Et puis, j'ai décidé que le site me permettait de vraiment structurer des formations plus formelles. Et puis, il s'est avéré que, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes. Et puis, donc, qu'est-ce que c'est de structurer? Bien, j'ai fait des sentiers dans le bois, parce que si j'allais avoir beaucoup de monde, ben ça piétine le monde. Hein? Alors, on les garde sur les sentiers jusqu'à temps qu'on arrive où ce que c'est qu'on veut travailler. J'ai mis des toilettes sèches à deux endroits dans le bois, parce qu'on est parti dans le bois pendant plusieurs heures. J'ai monté un grand tipi, parce que quand on revenait avec nos produits, ben on était à l'abri pour pouvoir cuisiner, préparer des plats cuisinés avec ce qu'on avait cueilli. Alors, c'est beaucoup plus formel, si vous voulez, mais en même temps, c'est un site qui permettait de recevoir des centaines et des centaines de personnes chaque année. Alors, ça a toujours été là, mais ça fait 7 ans maintenant qu'on a vraiment structuré ça de façon beaucoup plus formelle, si vous voulez.
Mm-hmm. Puis, est-ce que ça a eu une influence sur le côté plus transformation, vente au détail? Est-ce que le fait de former les gens a eu une influence sur leur intérêt puis la vente de vos produits?
Oui, il est clair. Il est clair que même qu'au départ, quand je faisais mes évaluations, la plupart du temps, c'était les gens venaient pour le facteur, appelons ça « entertainment », parce que c'était intéressant, quoi. De plus en plus, ce qu'on voit, c'est des gens qui veulent apprendre à cueillir pour eux-mêmes, pour le plaisir de cueillir eux-mêmes. Puis évidemment, ils deviennent des clients. C'est des clients acquis. Parce que le jour où ils ont pu la petite cueillette qu'ils voulaient faire, rendue à l'automne, l'hiver, bien, c'est les produits gourmets sauvages qui sont là. Tu sais. Et puis, moi, je me plais toujours à dire que disons que ce qui met le pain sur la table chez Gourmets sauvages, c'est notre cueillette, notre transformation. Mais ce qu'on fait qui est important, c'est l'éducation du public. Alors, c'est pas ça qui nous fait vivre, mais c'est de loin, moi, ce qui nous distingue, je trouve. Et puis, en plus de ça, qui donne un élan, une raison d'être à l'entreprise. À mon avis, ça. J'espère que ça l'est aussi pour ma fille puis son partenaire, mais je le crois, en tout cas, il croit fermement que l'éducation du public, c'est une façon de sensibiliser les gens à un milieu naturel qui est précieux. Et puis, je pense que quand on est confronté à toutes ces possibilités-là qui existent en forêt, et puis souvent, sans vouloir trop m'éparpiller, je vais parler de plantes ou de champignons comestibles, mais on parle d'écologie, on parle de la flore, des oiseaux, des fleurs, tout ça. Alors, les gens finissent par dire « Wow, c'est quelque chose de vraiment important qui est ici ». On finit par aimer ce grand mur vert. Et puis, ce qu'on aime, bien, on le protège. Alors, c'est un peu ça le but de l'éducation, c'est de faire en sorte que les gens aient une appréciation pour nos milieux naturels puis qu'ils les protègent. Mm-hmm.
Est-ce que, étant donné que tu es un peu dans les pionniers, clairement, de l'engouement qu'il y a pu avoir sur les comestibles sauvages et les PFNL, est-ce que des fois, tu n'as pas eu un peu de regret ou de par rapport à la pérennité de la ressource, c'est le fait que qu'il y ait un engouement, qu'il y ait une valeur économique reliée à ça, quand on voit certaines plantes vedettes qui sont un peu plus sollicitées, exploitées, on peut penser à la tête de violon ou au thé du Labrador. Est-ce que des fois, tu t'es pas senti un peu responsable, entre guillemets, de cette situation-là? Comment tu vis ça?
Il y a peut-être... les gens qui font ce travail-là connaissent tous les livres de Fleurbeck. Et puis, Gisèle Lamoureux, qui est en tête de ce grand groupe-là, qui ont fait un travail extraordinaire, exprimait, elle aussi, de temps en temps, des regrets par rapport à ça. Alors, est-ce que j'en ai? Des fois. Ça dépend de quel côté du lit je me lève. C'est sûr que l'appât du gain va faire en sorte qu'il y a certains individus qui vont abuser de la ressource pour être capable d'aller chercher des sous, quoi. Il y a encore des gens qui ont des entreprises qui vendent, par exemple, l'ail des bois, qui est protégé depuis 97, depuis plus de 20 ans, le carcajou, la sarraie, toutes les plantes protégées. Puis il y a des entreprises que je connais qui vendent ça. Donc, il y a des chefs qui nous sollicitent assez souvent pour avoir de ces produits-là. Et puis, ça fait partie de notre travail d'éducation, de leur dire, ben non, c'est défendu. On ne peut pas vendre. C'est pas vrai que l'ail des bois, on peut vendre la feuille, pourvu qu'on protège le bulbe. C'est pas vrai. Alors, oui, comme on dit, là où il y a l'homme, il y a de l'hommerie. Il va y avoir des abus, puis il y en a de temps à autre. Ceci dit, je pense que notre programme de formation a quand même un certain effet. La plupart des gens, j'espère, qui font la cueillette ont été formés. Beaucoup d'entre eux ont certainement inné un souci pour la pérennité de la ressource. C'est dans leur intérêt d'être capable de retourner l'an suivant, si c'est vraiment des professionnels, d'être capable de retourner l'an suivant pour refaire une cueillette. Maintenant, il y a aussi les cueilleurs du dimanche, ceux qui prennent un congé annuel pour aller chercher des têtes de violon, qui vont passer une deuxième fois sur un lieu de cueillette qui a déjà été exploité. Peut-être qu'éventuellement, le ministère, l'association et puis les professionnels de ce métier-là vont pouvoir faire en sorte que ça va être défendu de faire ça. Il faut avoir une certaine reconnaissance de la part du gouvernement québécois pour faire ce genre de travail. On n'est pas là. Puis, il y a des abus, mais moi, je vous dirais qu'en majorité de nos gens travaillent de façon respectueuse et responsable.
Mm-hmm. Puis, pour toi, c'est quoi l'importance de la culture puis l'agroforesterie dans le fait de multiplier ces végétaux-là, ces champignons-là? Parce que je sais que tu travailles sur ton terrain sur des formes d'horticulture sauvage et des modèles de développement qui permettent d'avoir ces produits-là à portée de main. Comment tu vois ça dans le futur? Puis comment toi, tu travailles ça, les PFNL en horticulture, appelons ça?
Oui, je pense que le futur, c'est un peu des deux. On va étudier les milieux naturels, puis peut-être s'en servir, mais souvent dans le but d'apprivoiser ces plantes-là, ces champignons-là, pour avoir plus de volume. Puis nous, c'est ce qu'on a constaté au fil des ans, parce que le volume augmente. Dans certains cas, la ressource est là, mais on manque de cueilleurs. Puis dans d'autres cas, la ressource, bien, on peut s'inquiéter un peu. Et puis, des fois, c'est pour aller chercher le volume dont on a besoin. Des fois, c'est pour faciliter aussi la cueillette qui peut être très, très difficile en milieu naturel. Alors qu'avec un peu d'investissement, des fois, on va chercher des volumes, puis ça nous permet de démocratiser les produits, de baisser les prix, en fait. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que la culture des PFNL a un avenir très prometteur. Je ne pense pas que ça va être pour tous les PFNL, parce qu'il y en a qui sont juste trop difficiles mais les plantes, entre autres, de lumière dans les jardins, là, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de potentiel là. Et puis, je suis ravi de voir qu'il y a plein de collègues qui s'en vont dans cette direction-là, avec des arbres fruitiers, avec des arbres à noix, avec des plantes aussi, des plantes légumes, racines, des plantes racines, des trucs comme ça. Puis, j'y vois un avenir très prometteur.
Toi, c'est quoi les tests que tu as faits qui semblent être prometteurs, du moins pour ton terrain, des choses que tu vois qu'il faudra avoir plus de recherche ou plus de développement?
Malheureusement, j'ai pas de compétences dans ce milieu-là. Puis moi, ce que je cherche à faire, puis je pense que ça s'en vient avec la MRC ici, c'est d'aller chercher des agronomes, des gens qui ont vraiment une compétence pour nous aider avec le pH du sol, le taux d'humidité, le type de sol, etc., etc. Mais j'ai quand même des expériences assez intéressantes avec, entre autres, la bardane, la racine de la bardane, la marguerite, l'ortie, qui est, tu vois, en France, n'importe quel bon restaurant, un potage d'ortie, une soupe à l'ortie, c'est... Mais ici, on ne voit pas ça. Moi, j'en mange depuis toujours, et puis c'est tellement délicieux. Alors là, j'en fais pousser pour en avoir à la main. Et puis, le topinambour, l'oxalide dans des plates-bandes, l'onagre bisannuel. Écoutez, tu vois, il y en a quand même... ça, c'est des cultures que j'ai utilisées commercialement. Maintenant, il y en a plusieurs qui sont encore à l'essai pour voir d'abord si les graines se ramassent facilement, s'il y a une façon de les préparer pour qu'il y ait une belle culture éventuellement. Mais moi, je pense qu'éventuellement, on va pouvoir cartographier ça. En tout cas, c'est notre but ici, c'est qu'on veut mettre ça sur des fiches pour que les gens puissent s'en servir, ceux qui ont accès à des terres pour faire des cultures à la maison, quoi.
Mm-hmm. Puis, tu sais, deux exemples, tu disais, bon, l'ortie en France est utilisée, puis les gens en font, bon, la culture ou la cueillette sauvage, mais la même chose pour la bardane au Japon, par exemple, c'est très utilisé, puis il y a des variétés améliorées de bardane japonaise qui font des énormes racines. Même chose pour l'onagre. L'onagre, c'est une plante oléagineuse dont les graines sont utilisées pour faire de l'huile. T'sais. Donc, il y a toutes sortes d'inspirations, je pense, des analogues climatiques, hein, toutes les pays autour du cercle boréal qui ont des écologies qui nous ressemblent, la Russie par exemple, hein, de plus en plus on voit des produits comme l'argousier ou bien la camerise. Donc je pense que il y a un échange qui doit être fait autant dans les cultures culinaires que dans les cultures agricoles.
Oui, 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 puis médicinales et tout le reste.
Il y a un grand métissage à se faire.
Il y a un travail que je n'ai pas fait et qui m'intéresse beaucoup, puis je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de le faire éventuellement, mais c'est tout ce qui touche aux graines comestibles, ou même des graines desquelles on pourrait extraire une huile, par exemple. Mais là, ça serait de choisir les plantes, d'essayer d'en faire la culture, de voir comment on peut faire la récolte aussi. Comment on peut faire le nettoyage de ces graines-là pour que ça soit quelque chose qui est rentable. C'est tout un domaine. Et écoute, le côté horticulturel des PFNL, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer et faire dans le futur. Puis je pense qu'il y a vraiment de la place pour ça.
Mm-hmm. Mais en même temps, il y a peut-être des blocages, tu sais, des blocages culturels reliés à qu'est-ce que l'agriculture, tu sais. Puis ça, c'est aussi relié à notre passé européen qui se disait, ben l'agriculture, c'est un endroit où il n'y a pas d'arbres, où on a une prairie et où on fait des grandes cultures céréalières. Tu sais, je pense qu'il y a ça à réinventer. Qu'est-ce qu'un terrain à vocation agricole? Hein, c'est pas nécessairement juste une plaine alluviale hyper fertile pour des annuels. Peut-être qu'on a toute une mosaïque d'écosystèmes à valoriser, à réinventer. Puis les PFNL ont d'après moi, là, une place de choix à pouvoir trouver le bon endroit pour la bonne plante et la bonne utilisation. Mais il y a des tabous, hein. Tu sais, on peut penser même dans le monde des écologistes. L'idée des plantes indigènes versus les plantes importées, même que pour certains, invasifs et importés sont souvent mis dans le même panier. Bon.
Oui. Mais écoute, j'ai parlé de champs, mais on a des bassins ici parce que c'est une ancienne pisciculture, puis on a fait de la quenouille là-dedans, puis on a fait de la pontédérie, puis on a fait de la sagittaire. Surtout pas pour la commercialisation, mais pour à des fins d'éducation avec le public qui vient ici. Il y a tout un travail à faire à l'intérieur des forêts aussi, comme les gens le font avec le ginseng, avec l'hydraste. Il y a des plantes là à cultiver qui ne sont pas en grand champ. Il y a aussi tout ce que je considère comme de l'aménagement forestier. Je vais donner un exemple qui est banal parce qu'il y en a tellement ici, c'est du noisetier. Puis il pousse en pleine forêt, mais avec le temps, les arbres deviennent tellement grands, donnent tellement d'ombre que les noisetiers fleurissent, mais ne donnent pas de fruits. Alors, en coupant quelques trembles, puis laissant un peu la lumière rentrer, tout à coup, je me retrouve avec des grands, grands tas de noisetiers que j'exploite à peu près pas. Là, j'en mange avec mes petites filles et puis pour le plaisir. Mais ça apporte le dindon sauvage, la marmotte, les écureuils. Donc, ça améliore la faune. Alors, c'est pas limité à des champs. Mm-hmm. On a de l'eau, on a des sous-bois. On peut faire de l'aménagement, mais on peut faire de la plantation. C'est bien plus large que juste la culture comme on la connaît, un grand champ de maïs ou un grand champ céréalier. Là. Mm-hmm.
Par rapport à l'aménagement forestier, je t'ai déjà entendu parler d'un modèle d'aménagement qu'on appelle le métayage. Si tu veux un peu nous expliquer c'est quoi le métayage puis comment les PFNL embarquent là-dedans, parler un peu de ce projet, sans nous donner les détails là, des projets en cours, là, la vision que tu as par rapport à ça.
Oui, bien, écoute, si on parle de la même chose, là, dans la région où on est, puis dans toutes les régions du Québec, les MRC, on leur alloue, le ministère des Forêts alloue aux MRC des terres publiques pour qu'ils soient gérés localement. peut-être différemment du grand ministère. Okay? Alors, la plupart des MRC cherchent à exploiter ces terres-là de façon non traditionnelle. Oui, ils vont aller chercher du bois, mais jamais de coupe à blanc, des coupes sélectives, par exemple. Puis là, on cherche à diversifier l'offre de ces boisés-là. Et puis, ils sont imposants, là, ça peut être des milliers d'hectares là, dans une MRC. Là, ce qu'on fait ici, c'est qu'on a décidé qu'on prendrait des terres publiques qui resteraient disponibles au public, mais que, pour certaines raisons, des individus ou des groupes d'individus géreraient avec des projets spécifiques. Nous, on a décidé qu'il y aurait un minimum de 3 différents projets. Dans un cas particulier qui est en train de se développer présentement, il y a de la sériculture, de l'écotourisme et puis de la culture de champignons sur bûche. Mais ça pourrait être beaucoup d'autres choses aussi. Alors, le métayer a accès sous contrat à ces produits-là. Il est suivi de près par les gens de la MRC qui l'appuient dans son travail. Et puis, ce qu'on fait finalement, c'est qu'on génère des emplois et puis une source de revenus beaucoup plus large pour un boisé. Puis on le fait avec en tête la pérennité de cette ressource-là. Alors, on veut garder cette forêt-là. On ne veut pas l'ouvrir à une nouvelle plantation, par exemple. Alors, je ne sais pas si ça explique à peu près ça répond à ta question, mais c'est une façon de faire en sorte que la personne puisse exploiter de façon beaucoup plus diversifiée un milieu naturel, tout en gardant, s'il fait des chemins, par exemple, le public aurait accès à ces chemins-là pour se promener, faire du ski de fond, de la raquette, de la marche en été. Donc, ça reste des terres publiques, mais avec une exploitation beaucoup plus large. Mm-hmm.
Puis, je sais que tu as beaucoup travaillé avec les Autochtones de différentes nations au Québec puis au Canada. C'est quoi que tu vois comme la place des PFNL dans le développement économique, le développement social des nations autochtones?
Oui, d'abord un commentaire pour dire que je suis vraiment désolé qu'ils ne sont pas plus présents dans ce milieu-là. Parce que c'est un héritage qu'on a eu d'eux, finalement, l'utilisation des ressources qui nous entourent. Et puis, tout à coup, on développe un marché qui devient de plus en plus important. La présence des Autochtones, ben, elle est remarquable. Ils sont très absents de ce milieu-là. Je pense que au niveau de leur propre tradition, qui se perd tellement rapidement, ça serait une façon de faire renaître dans les communautés un certain savoir-faire, puis aussi une façon de renouveler finalement des connaissances ancestrales. Il y aurait le bien-être économique que ça peut apporter. Moi, j'ai toujours déploré le fait que, dans une communauté autochtone, tout le monde consomme des bleuets au mois d'août. Mais rendu au mois de février, on achète des confitures de petites mamans, de bonnes mamans. Alors, il devrait avoir dans ces communautés-là une capacité de transformation de produits pour que les Autochtones, les Cris du Nord, l'Atikamekw, etc., les Innus, devraient manger leur propre confiture. Juste ça apporte une certaine fierté, puis une autosuffisance, un niveau d'autosuffisance qui se perd un peu dans les communautés autochtones. Alors, les bienfaits, sont très, très larges. Je vois aussi, par exemple, que les jeunes qui perdent vraiment tout ça pourraient gagner de travailler avec les aïeux qui s'en souviennent, eux, de ces connaissances-là, et puis qui pourraient les partager d'une génération à l'autre. Alors, il y a plusieurs aspect positif au développement des PFNL dans les communautés autochtones.
Mm-hmm. Puis toi, dans ta relation, comment tu as été reçu dans ces collaborations-là? Est-ce qu'il y avait des enjeux d'appropriation culturelle? Tu sais, comment, comment tu naviguais là, dans ces eaux-là, à ces troubles dus à l'histoire chargée là, du colonialisme, etc. Comment tu te positionnais, toi, là-dedans?
Oui, c'est une question qui est lourde de sens que tu poses, parce que l'expérience que j'ai qui est la plus longue, si tu veux, c'est avec les cris du nord du Québec. Et puis, te dire le plaisir qu'on a eu à travailler ensemble, écoute, c'est difficile à décrire. Par contre, l'objectif au départ, c'était vraiment de créer une entreprise majoritairement cri. Et puis, même s'il y avait l'apport de blancs, on voulait quand même qu'ils aient un contrôle là-dessus, c'est-à-dire qu'ils géreraient éventuellement, s'il n'y avait pas de capacité de le faire à court terme, de le faire à moyen terme ou à long terme, de gérer tous les aspects de l'entreprise, que ce soit vraiment une entreprise CRI. Ça ne s'est pas passé. Alors, on ne manquait pas de cueilleurs. On avait du plaisir fou. Il y a des années où on a passé du temps en forêt, clairement sous la tente, à faire la cueillette. Mais on n'a jamais réussi à vraiment démarrer l'entreprise CRI. Et puis, moi, ma position sur la cueillette sur les territoires CRI, et puis je me souviens quand j'étais président de l'association, que j'en parlais haut et fort, c'est qu'on a un droit légal, si vous voulez, d'aller sur les terres CRI, puis faire la cueillette sur les terres dans le temps qu'on appelait les terres numéro 3, là, où ils ont un droit à la fourrure, mais pas nécessairement au PFNL. On a un droit légal, mais on n'a pas le droit moral. Alors, moi, ce que je disais, bien, entrez dans un village, parlez-en aux gens, ils vont être extrêmement heureux de travailler avec vous. Allez chercher au moins l'aval de la communauté avant de vous mettre à travailler sur les terres sans permission. Et puis, malheureusement, il y a encore de ça qui se passe. Je le déplore un peu. À l'inverse, si on peut continuer à travailler avec eux, et puis développer des entreprises, bien là, il va y avoir vraiment une ouverture beaucoup plus facile, beaucoup plus grande pour une association entre gens des Premières Nations puis la communauté blanche du Québec.
On a eu ta fille Ariane en entrevue sur le balado de la CPFNL, puis on sait que Gourmet Sauvage est en transition, même en expansion. Comment tu vois l'entreprise évoluer dans les 5-10 prochaines années et toi-même ta place là-dedans? Est-ce que tu te retires? Est-ce que tu vas prendre un nouveau rôle? Comment tu vois ça?
Ben d'abord, c'est un grand, grand cadeau que ma fille et son partenaire se sont joints à l'entreprise parce que ça allait s'arrêter avec mon départ éventuel. Et puis, je suis moins jeune que je l'étais. Alors, quel cadeau, puis je m'y attendais pas. Ça lui a toujours été offert, mais ça ne l'intéressait pas pendant longtemps. Puis à un moment donné, tiens, peut-être que le bonhomme, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, je suis tellement content de l'avoir là. Depuis 2 mois, ils sont entièrement propriétaires. J'ai vendu mes parts. Donc, je reste actif dans la compagnie. Pour moi, la continuation, c'est l'éducation, le travail de culture, si vous voulez, et puis la cueillette. Ces 3 choses-là, c'est les choses qui m'intéressent vraiment. Et puis, tant que j'ai une capacité, je veux continuer à le faire. Quoique, peut-être en ralentissant avec le temps. Le reste, ben, ça va dépendre d'eux autres. Une des choses que je vois, c'est que de plus en plus, on l'a vécu avec l'ouverture pendant un été d'un petit café bistrot, si vous voulez. Mais moi, je vois la valeur ajoutée comme étant une façon de voir l'entreprise continuer à progresser. Donc, au lieu de vendre du volume à un distributeur, ben, tu en fais la transformation puis tu le vends directement au public, tout en faisant aussi à travers de ça la sensibilisation puis l'éducation. Tu sais. Pour peut-être limiter ce qu'on fait en milieu naturel, d'une part, de s'assurer qu'on a assez de bons cueilleurs, parce que c'est, ça ne court pas les rues, les bons cueilleurs. Il faut les chercher, puis il faut les former. Puis, alors, est-ce qu'ils vont aller dans d'autres directions? Mais c'est clair qu'ils ont apporté toutes leurs compétences et puis leurs nouvelles idées. Le travail, la boutique en ligne n'existait pas quand j'étais là, moi. Et puis maintenant, c'est une partie quand même importante du travail qu'on fait. Il va y avoir une forme ou une autre de boutique ou de resto ou les deux. On en a fait l'expérience et puis ça s'avère être quand même très intéressant. Et puis, je ne sais pas, on va peut-être continuer à travailler ici. Peut-être qu'éventuellement, on va avoir une grande terre à nous pour assurer. Moi, j'ai des idées en tête sur la formation que j'aimerais développer, mais qui vont prendre de l'investissement, du temps. Entre autres, je pourrais parler d'une immersion, disons, d'une semaine avec des gens que je connais dans le milieu naturel qui toucheraient l'écologie, puis la foresterie, puis l'ornithologie, puis les amphibiens, puis les plantes comestibles, puis les plantes médicinales. Puis, écoutez, ce n'est pas les sujets qui manquent. Et puis, on est entouré de gens un peu partout qui ont des compétences dans ces milieux-là. Puis, je pense qu'il y aurait un intérêt très, très grand par certaines personnes de s'immerger pendant 5-6 jours complètement dans ce milieu-là, élargir un peu nos horizons en dehors de ce qui est comestible. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai à cœur, mais la logistique derrière ça est quand même assez importante et puis faut y penser. Mais peut-être que je sème une graine, là, quelqu'un va m'entendre, va faire quelque chose qui ressemble à ça. En tout cas, je le souhaite.
Puis pour finir, plus généralement, pour le secteur des PFNL, bon, on enregistre ça au printemps 2020, en pleine crise sanitaire du COVID-19, mais il y a beaucoup d'incertitudes par rapport aux trajectoires que peut prendre le futur. Mais c'est quoi ton souhait ou ta vision pour le secteur des PFNL puis sa place dans la culture québécoise, puis dans le développement régional. Si tu pouvais rêver, là, comme ça serait quoi la place des PFNL dans une société que tu appelles de tes souhaits?
Il est clair pour moi que ce n'est pas une mode passagère, mais je voudrais que chaque foyer au Québec ait ses champignons secs dans l'armoire, un peu comme on a le lait au frigidaire puis les pommes de terre dans l'armoire à gauche du poêle. Tu sais. Que ça soit partie prenante de ce que les gens utilisent au quotidien. Imaginez si tout le monde mangeait un demi-kilo de champignons. On est plus de 8 millions. Un demi-kilo, ça ferait 4 millions de kilos de champignons. Ça en prendrait, ça, des entreprises. Une autre vision que j'ai, c'est des entreprises fortes. La loi du marché fait en sorte probablement qu'il va s'en développer une petite poignée plus grosse que d'autres, mais j'aime beaucoup l'idée d'avoir des entreprises sur le territoire un peu partout qui gagnent quand même de façon honnête leur vie avec les PFNL. Pourquoi? Parce que chaque individu apporte son inspiration et ses compétences à ce milieu-là. Et puis, les possibilités sont tellement larges, tellement grandes, à mon avis. Alors, je voudrais qu'on ait, tu sais, 75, une centaine d'entreprises qui vivent de ça, de la baie James à l'Estrie, puis de la Côte-Nord jusqu'à dans les Laurentides et puis l'Outaouais. Tu sais. C'est certainement un très, très grand souhait. J'aimerais aussi que le programme éducatif des entreprises soit partout sur le territoire. On a déjà plusieurs qui le font, qu'il y en a encore plus. La demande est forte. On s'est tellement éloigné, on est tellement en carence naturelle, si vous voulez. On vit dans les villes. Québec est urbanisé maintenant à plus de 80 %. Et puis, ça fait partie de notre ADN. On a oublié ça, puis on sent un manque quelque part en dedans. Nous, on a de la misère à mettre le doigt dessus, mais je vous assure que quand on amène les gens en forêt, ils reconnaissent l'importance de ce qui se passe, puis nous quitte à la fin de la journée, nous serrant des deux mains. Merci, merci, comme si on leur avait fait le plus beau cadeau du monde. Très, très valorisant, ça. Alors, j'encourage les entreprises à aller dans cette direction-là. Il y a peut-être plein d'autres souhaits, mais je pense que le plus grand, ça serait de reconnaître ces produits-là comme étant une partie prenante de notre cuisine, puis les restaurants qui ont déjà fait un grand travail dans cette direction-là continuent, puis même qui augmentent. Qu'on donne une juste valeur à ces magnifiques produits de nos milieux naturels.
Gérard Le Gall, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, puis merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait au fil des années.
Merci à toi. Bonne journée.
Bonne journée. Ciao.